evening, in your face as you were leaving. I guess that's just the way the story goes.
Jusqu'au 11 décembre 2010, le gymnase accueille Le Livre d'or de Yann, une pièce de théâtre écrite et mise en scène par Hubert Collat. Hubert, bonjour.
Bonsoir.
No, I can't forget tomorrow when I think of all the sorrow I had either and then I'll let you go.
Après Nomade, La Brûlure, La Croix des Oiseaux, ou plus récemment Sans fin et Sans fin 2, voici donc un nouveau texte. Quand est-ce que tu l'as écrit? Dans quel contexte? Dans quel état d'esprit tu as écrit ce livre d'or de Yann?
Je l'ai écrit... D'abord, il y a eu des promesses, des prémices d'écriture, je crois, il y a peut-être 3 ans, en fait, de ce texte-là, où le thème de la disparition, comme ça, était présent, à la fois un thème de disparition et surtout peut-être un thème de renouveau, en fait, quelque chose qui par la disparition recréer quelque chose d'un être nouveau qui apparaissait. Il y avait quelque chose qui hantait les notes que j'étais en train de préparer par rapport à ça. Et puis 6 mois après, j'ai rencontré Vincent Baudrier et Hortense Archambault, les directeurs du Festival d'Avignon, qui m'ont dit qu'ils aimeraient m'inviter pour la 63e édition et de préférence avec un de mes textes. Donc du coup c'est à partir de là que d'un seul coup les choses sont précisées et de travailler plus l'idée de ce qui serait la disparition d'un être cher, et une disparition assez particulière puisque dans la pièce il s'agit de la disparition d'un proche de 9 amis, donc de ce disparu, et de 9 amis qui se connaissent pour ainsi dire pas du tout, ou très très peu, et du coup de se rendre compte que la façon dont chacun abordait finalement la figure de Yann était différente. Son rapport à l'intime à lui, son rapport au quotidien, son rapport d'amour, son rapport d'amitié, créait comme ça une personnalité particulière de ce Yann qui n'était pas la même pour chacun d'entre eux. En même temps, c'est un texte où il s'agissait finalement d'essayer de faire parler des caractéristiques intimes de chaque figure. Et sans rentrer non plus pour moi, bien évidemment, dans une espèce de parcours auto-fictionnel de ce que pouvait représenter pour moi la disparition, mais peut-être plus à un moment donné d'arriver à questionner finalement qu'est-ce que cet être-là ou qu'est-ce qu'un être qui disparaît nous laisse.
Celle qu'il a peut-être connue un peu plus que tout le monde, Antonia.
Je pense à une chose que j'ai racontée à peu de gens. C'est intime, mais je vais vous le dire. C'est une chose que d'habitude je ne raconte pas. Je crois bien ça, que c'est peut-être bien la première fois que je raconte ça. Bon, autant que je vous le dise tout de suite, c'est une histoire de merde, mais bon, c'est pas très poli, mais c'est comme ça qu'on dit, de merde. Bon, alors... C'est arrivé plusieurs fois, cette histoire, chez des personnes différentes, mais je vais vous raconter le jour où c'est arrivé avec Yann. Il faut dire aussi que ce genre d'histoire, cela arrive surtout dans les maisons de campagne. Un soir, dans une maison de campagne, c'était à Londres, enfin en Angleterre, je sors avec des amis. Et on va chez Yann. Ça commence très bien et tout ça. Yann est très gentil. Les amis de Yann sont aussi très gentils. Tout le monde est très gentil. Et moi aussi, ce soir-là, je suis très gentille. Super. L'appartement de Yann est très propre, très blanc. Bien aménagé, tout comme ça est à sa place, il n'y a rien de trop ou pas assez, c'est bien. Je repère tout de suite où se trouve la cuisine, parce que c'est important pour moi de repérer tout de suite où se trouve la cuisine. Vous allez comprendre pourquoi.
Dans cette pièce, l'évocation en creux d'une figure, d'une disparition, cette figure, c'est la figure d'un artiste, Yann. Au-delà de l'artiste disparu, il y a peut-être quelque chose sur la disparition de l'art.
Oui, en fait, c'est vrai, si ça existe, ça, effectivement, par moments, je me pose la question de ça en voyant le spectacle où il y a des œuvres, ça s'appelle même des œuvres vides, en fait. C'est comme si, à un moment donné, quelque chose dans l'art se questionnait, finalement, en ce moment. Alors, je ne dis pas qu'il y ait une absence de l'art ou que l'art serait vide ou quoi que ce soit dans ce sens-là, je n'en aurais pas la prétention, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, si on prenait le cas de la danse, toutes ces dernières années, et ça fait quand même un petit moment, plus d'une décennie peut-être, où on peut parler de non-danse dans la danse. Et du coup, le propos s'installe autrement. Il semblerait que quelque chose se re-questionne finalement dans cet art-là, et peut-être il y a comme quelque chose dans une époque, la fin du siècle, le début d'un autre siècle, quelque chose qui repose les questions de comment transmettre au public la sensibilité d'une époque. Alors, est-ce que c'est par sa disparition ? Est-ce que dans l'art, on entendrait quelque chose d'une disparition de la civilisation, d'un certain mode de fonctionnement, ou d'un mode du politique, ou d'un mode économique qui, finalement, est à l'épuisement, à son apogée et à son épuisement, finalement, structurel ?
Est-ce que ça veut dire, pour rester très très positif, voir le bon côté du verre à demi plein, à demi vide, que l'absence de l'art, c'est encore de l'art ?
Je ne sais pas. À partir du moment où il y a un acte qui se fait, en tous les cas, par des artistes et qui sont aussi les acteurs du spectacle, parce que je crois que quand j'ai fait cette mise en scène ou travaillé sur l'écriture, j'ai autant questionné mon propre projet artistique que finalement le statut de l'acteur, en disant aux acteurs, mais vous n'êtes pas simplement des interprètes, mais vous êtes aussi des artistes, enfin au sens le plus grand du terme, c'est-à-dire de transmettre quelque chose, et quelque chose aussi de votre propre intimité et de votre propre aussi recherche dans l'acte qui fait art de l'acteur. C'est à un moment donné, qu'est-ce que c'est que finalement être acteur sur un plateau? Est-ce que c'est simplement transmettre une espèce de patrimoine généraliste sur l'art du théâtre, ou est-ce qu'à un moment donné on transmet quelque chose de très particulier, d'un instant très particulier qui doit exister entre l'acteur et le public, entre l'objet représenté et ce qui va faire que le public, quand il partira, va naviguer pendant un temps avec la problématique du spectacle et la problématique de l'art. C'est à un moment donné, qu'est-ce qui existe entre des êtres? Mais ça touche cette question-là, la problématique de l'intime. L'art est puissamment intime, et je pense qu'à un moment donné, parler de l'intime sur le plateau entre les êtres, c'est aussi faire parler ce qui, à un moment donné dans nos vies, et ce que dit la pièce, hein, c'est le lâcher prise, le laisser agir, le fait qu'à un moment donné, on est dans un état où on crée. C'est pour ça que des fois on dit que ce sont des actes d'amour, hein, les actes artistiques. Il y a quelque chose comme ça qui est traversé dans cette pièce et qui me semble important de tenter d'exprimer et de mettre aujourd'hui, finalement, la question dans le corps de l'acteur, en lui disant, mais quand vous venez là, c'est pour une raison précise. C'est quoi votre raison précise? Et sans donner forcément de, ou pour autant, de réponse.
Dans cette pièce, une écriture fragmentée, hétérogène, parfois jusqu'à risquer l'hétéroclite, c'est pas tant une écriture que des écritures qui forment ce texte.
C'est vrai, parce qu'à un moment donné, ça rejoint ce que je disais un tout petit peu tout à l'heure sur le fait que la représentation de Yann se faisait par 9 personnes qui avait un point de vue totalement différent. Mais un point de vue totalement différent dans le rapport amoureux, mais aussi un point de vue totalement différent par rapport à l'art. Et donc, du coup, ça crée des choses assez composites, mais c'était aussi une vraie volonté de tenter, en fait, de montrer des formes de représentation différentes, à la fois, on pourrait dire, presque classiques, théâtralement, et puis par moments, un peu, on va dire, une espèce de comédie, hein, d'un seul coup, qui apparaît, voire des numéros, en fait, ni plus ni moins.
Apprendre au 36e degré, la scène de l'omelette.
Par exemple, oui, qui est une espèce de pied de nez, finalement, à la représentation, et qui, il n'y a rien qui se représente à cet endroit-là, et en même temps, à chaque fois, ces scènes-là créent une espèce d'empathie particulière, en fait, j'ai découvert en le faisant avec le public qui finalement y adhère, et en même temps on se dit, qu'est-ce que c'est que cet objet à ce moment-là, quoi, c'est quand même très... Et là, après, c'est une façon de dire que Yann, finalement, Et on a vu ça dans bon nombre d'artistes, de plasticiens, hein, qui caricaturaient finalement l'idée de l'offre artistique, en fait, aussi sans doute par rapport à ce que peut représenter la puissance économique de l'art, à un moment donné. Enfin, il y a des écarts assez, absolument phénoménaux entre des plasticiens qui n'ont pas de moyens de vivre, et puis d'un seul coup, des Jeff Koons ou autres qui atteignent des scores financiers quand même. Assez fou.
2-92-47-310-11-45, Sécurité sociale, B170661, Congé spectacle, 48-85-167-P, AC10-806-449, le mot de passe, 02-753-40-92-48-01, compte en banque, 54-652-931, le mot de passe, 10-771-10-82-87-01, autre compte en banque, 54-652-931, le mot de passe, A20-38, code de porte, 72-A36, autre porte, 87-36, ancien code, 25-49, nouveau code, 05-53-20-18-20, maman, 06-61-88-30-24, Lex, 06-18-92-05-38, son téléphone.
Ça aussi, je sais le faire.
Un dispositif scénique lucide, extra-lucide, translucide dans cette pièce, paroi de verre, ombre et reflets. Peut-être sur la scénographie de cette pièce, l'écriture scénique que tu y développes.
Bah, comme on parlait, c'est vrai qu'en fait, par rapport à d'autres spectacles que j'ai pu faire, elle est beaucoup plus dépouillée, en fait. Je vois qu'il y a un élément et qui devait finalement être... un élément plastique, essentiellement plastique, ou la possibilité aussi de créer de la transparence par l'idée de re-représenter finalement des choses qui se sont passées, qui ne sont pas l'immédiat du plateau, mais qui sont jouées de façon immédiate, mais qui sont aussi l'idée du passé, qui a donc cette notion du miroir, là, de passer à travers les choses, de passer à travers les corps, de passer à travers les premiers obstacles qui font qu'on a des barrières avec nous-mêmes pour se dévoiler. Enfin, c'est pas simple, hein, le spectacle a ce mouvement très lent au départ, en fait, de délivrance de l'intime et qui est voulu. Et je crois que la sensation que j'ai essayé d'avoir avec l'espace, c'était de concourir à ça, enfin, de donner les éléments de ça, de donner les ouvertures, de donner le... aussi l'idée du cercle, en fait, de tourner autour de ce mur, et puis qu'il soit aussi porteur de on pourrait tout à fait avoir ce mur finalement dans un musée avec une image vidéo telle que ça se passe dans le spectacle, et ça ferait œuvre d'art.
Tu entres, tu es joyeuse, affairée parce que la journée t'a surprise par sa durée, trop courte pour faire tout ce que tu aimais faire, mais tu es là, contente de venir, de passer cette soirée, mais je ne suis pas là. C'est parce que tu étais un peu plus grande que moi que le premier jour où je t'ai vue, je me suis dit c'est elle aujourd'hui qui me fera quitter ce jour triste. Tu entres, tu n'es pas convaincu, mais tu viens quand même. Si tu avais pu tomber malade, cela t'aurait arrangé, mais tu es là, prêt à te plaindre du mauvais jour, de ce mauvais temps, du retard qui s'accumule dans tes affaires. Tu aimerais contester, mais tu te retiens. J'aime cette excitation qui s'anime dans tes yeux pour te plaindre sans cesse. Mais je ne suis pas là.
Oh, my love for her is golden. And for every word she said, I know.
C'est un texte, à la fois c'est un texte et un spectacle particulier, je crois, par rapport au travail que j'ai pu mener jusqu'à présent.
Hubert Collin.
Je crois qu'à l'origine, il était porteur d'une grande... enfin, remise en cause, je crois, du travail. En tous les cas, quand je dis remise en cause, c'est-à-dire, en fait, d'essayer de me déplacer, de faire un spectacle où j'allais simplement faire un étalage de mon savoir-faire, arriver à une certaine maturité de mon travail de metteur en scène, se dire, bon, voilà, je sais faire ça, je peux faire ça, je le fais. Et là, j'avais envie de me bousculer, de re-questionner les acteurs, et notamment aussi par un travail d'improvisation qui a été fait pendant un certain temps, pendant la répétition. surtout au départ, pour essayer finalement de créer un lien entre, d'appropriation chez les acteurs de la matière que nous étions en train de constituer. Donc quelque chose qui m'échappait plus à un moment donné, d'écrire aussi par moments sur ces improvisations-là, et puis d'essayer de déconstruire en fait aussi. Et donc dans ce travail de déconstruction, à un moment donné, c'est pas simple à essayer finalement de construire un objet à la fois narratif et en même temps où la construction paraît plus chaotique et plus improvisée. Donc il fallait créer un texte de cette nature-là, et donc qui me donne à moi une sensation d'insatisfaction, en fait. C'est comme si la disparition... Enfin, je me retrouvais moi-même piégé dans la construction du texte, c'est-à-dire, et je ne pouvais être qu'insatisfait en permanence de l'objet écrit, puisqu'il ne pouvait pas y avoir de fin, il ne pouvait pas y avoir de commentaire sur la disparition de Yann, il fallait pas dire que c'était ceci ou cela, et donc fallait laisser cette voie libre. Mais cette voie libre, moi, m'a mis dans un état d'incertitude assez fort, au point de me dire, est-ce que ce texte est bien ou pas bien, quand est-ce que je vais le donner, quand est-ce que je vais dire qu'il est fini.
Le livre d'or de Yann, en tout cas, un texte, une pièce très emblématique de l'esprit du festival Actoral. Il y a presque un côté un peu appartement témoin d'Actoral avec ce livre d'or de Yann. Actoral qui a lieu à Montevideo. Peut-être c'est juste l'occasion, en deux mots, de reparler de ce lieu, Montevideo, de sa situation, de comment les choses s'arrangent avec les travaux, de ce qui va s'y passer.
On est, comme vous le savez, un peu dans une situation particulière, un peu tendue pour nous en termes d'équipe, parce qu'on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui l'avenir de Montevideo, à la fois pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est un lieu dont la volonté d'exister a été portée par deux artistes, enfin par moi-même et par Jean-Marc Montera, que nous l'avons créé, que nous avons proposé ça aux collectivités territoriales, et que ce lieu a maintenant un tout petit peu plus de 10 ans. Je pense qu'il a eu, il est arrivé un peu à une certaine forme de vitesse de croisière depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, et puis on en est à un point charnière. Le point charnière fait que il y a un renouvellement de bail aussi qui se pose à la fin de 2013, et que cela conditionne beaucoup la problématique des travaux. C'est-à-dire, si on continue les travaux, ça demande des investissements de la part des collectivités qui vont être d'accord, qui sont en principe entre guillemets d'accord, mais nous avons eu des difficultés financières depuis 2 ans parce que ce lieu est sous-subventionné. Nous avons perdu tous les contrats aidés parce que nous ne pouvons pas les maintenir faute de subventions. On a un montant de fonctionnement qui est assez ridicule par rapport à une structure comme celle-ci, qui est quand même une structure, surtout pour les musiques, de production et de diffusion. C'est une structure qui est porteuse du festival Actoral et une structure qui était porteur des écritures contemporaines, de résidences, de petites lectures et de petites formes qui étaient présentées en cours de production. Tout ceci, on est obligé d'arrêter. Nous n'avons plus de marge artistique, nous n'avons plus de centre de ressources qui a fermé ses portes, nous n'avons plus de techniciens. Et on arrive à la fin d'un espèce de prisme comme ça, où effectivement les moyens de Montevideo ne sont pas suffisants pour lui créer une vie, une continuité de vie. Et en plus de ça, les investissements, on les a perdus depuis quelques années. Donc on arrive dans une situation précaire où malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas continuer de la sorte. Donc arrive cette histoire de commission de sécurité qui fait qu'aujourd'hui, la commission de sécurité dit « Vous ne faites plus de travaux depuis 30 ans. Il faudrait que ce lieu soit aux normes si vous voulez qu'il puisse vraiment s'ouvrir correctement auprès du public. » Donc on est face à ça, face à toutes ces échéances en même temps, et nous espérons que les tutelles vont nous suivre sur la finalisation, hein. Mais il n'y a pas que Montevideo, hein, à Marseille, il y a un bon nombre de lieux qui malheureusement, on pourrait dire finalement, se retrouvent dans des situations un peu analogues, hein, pour des raisons totalement différentes, que ça soit la Friche, comme Radio Grenouille peut le savoir, mais qui maintenant va sortir, puisqu'on sait que pour 2013, ça va sortir des eaux. Il y a bon nombre de lieux. Le Crier est pas, je ne suis pas sûr, pas encore totalement sortir de ces embûches de l'amiante, et puis sans doute d'autres lieux, l'Opéra aussi, etc. etc. Nous sommes une petite structure qui avons finalement les mêmes problèmes, à part qu'on est une structure qui... Bon, je crois qu'on a une certaine ambition de transmettre ce qui nous paraît important ici, à Marseille et dans sa région.
En tout cas, n'attendons pas 2013 pour sortir des eaux, sortir la tête de l'eau. On a beau avoir du souffle, c'est difficile de le retenir jusque-là. En attendant, le livre d'or de Yann, c'est jusqu'au 11 décembre. C'est au théâtre du Gymnase. Les horaires et plus d'informations sur www.lestheatres.net. Merci Hubert.
Merci. Oh! Angel, this friend of mine.